Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Puisqu'on n'est pas capable individuellement de ne pas avoir envie d'aller à New York pour revoir cette ville merveilleuse, alors même qu'y passer 5 jours, c'est peut-être pas très sérieux ou qu'on n'a jamais été voir les gorges du Verdon et que finalement, est-ce que ça... Ça a tant de sens que ça de découvrir la Thaïlande alors qu'on n'a pas profité de l'Ardèche. Eh bien, on va pouvoir poser ensemble un cadre réglementaire parce que ce sera toujours quasi impossible de ne pas profiter si le voisin profite. Ce sera toujours impossible de ne pas se dire « j'ai le droit à ma voiture » si autour de nous, les gens se donnent le droit à une voiture. Et cette inertie comme ça, psychologique, clanique, tribale, elle est un état de fait. Et si on l'accepte, en fait, on se sent... très vite beaucoup plus à l'aise avec les solutions à imaginer qui sont des solutions collectives et coercitives. On n'a pas le droit, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'il y a un cadre réglementaire. Aujourd'hui, il y a une forme de tabou sur la liberté individuelle. On se dit on ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut faire 600 000 km de rouler 600 000 km avec son vieux véhicule. Eh bien, demain, on se dira en fait, toutes les... interventions qui affectent le bien-être des générations futures ou des voisins peuvent faire l'objet d'une réglementation.
Une ville décarbonée, ça vous parle forcément en ce moment, non ? Eh bien, c'est un sujet qu'on aborde avec mon invité cette semaine. Bien que cet épisode ait été enregistré il y a plus d'un mois, je pense qu'il résonnera particulièrement en vous en ce moment. Je ne peux pas commencer l'introduction de cet épisode sans dire et redire à quel point je pense à celles et ceux qui souffrent. Physiquement, mentalement, moralement et financièrement. Je pense à ces familles endeuillées et bien entendu aux hommes et aux femmes qui forment le personnel soignant de notre pays et sont de fait nos héros et nos héroïnes. À eux et à elles, un immense merci. Merci aussi à vous toutes et tous, pour cette pluie de messages sans précédent depuis le début du podcast. Vous êtes même encore aujourd'hui de plus en plus nombreux à écouter Réel, et j'espère de tout mon cœur qu'il vous apportera un peu d'apaisement durant cette période de pandémie. Je me pose beaucoup de questions en ce moment sur l'avenir de mon podcast et la manière dont il doit évoluer compte tenu des circonstances, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos recommandations et vos idées, c'est toujours un immense bonheur de vous lire. Merci aussi à Vincent Rochette, sans qui ce podcast n'existerait pas. Il m'accompagne sur le montage de chaque épisode, mais il m'accompagne tout court, simplement. Alors Vincent, merci. Allez, je passe à l'introduction de mon invité. Il est déjà venu dans le podcast, mais j'ai eu envie de lui donner la parole à nouveau, car j'aime tisser des liens avec mes invités et je mesure la chance que j'ai de les avoir toujours autour de moi, encore aujourd'hui. Sociologue de formation, il se définit comme un ingénieur social. Il conçoit des réseaux sociaux, des jeux, des programmes et tout ce qui peut créer du lien social. Il a à cœur de faire baisser la violence, par exemple dans les cours d'école, de faire en sorte d'augmenter la coopération dans les organisations, d'adoucir l'administration, sacré challenge, et de réchauffer ce qui peut sembler froid, comme un abribus. À son actif, il a plusieurs entreprises telles que Peuplade, un réseau social local, pour habitants d'un même quartier, ou encore Voisin.age, qui rassemble les voisins autour des personnes âgées de leur quartier. Il a également cofondé, avec nos proches, un réseau social téléphonique pour les aidants familiaux, ou encore Happy Week, un jeu collaboratif qui donne envie aux enfants d'accomplir les tâches du quotidien comme un jeu. Je pense que ça vous parlera en ce moment. Mais il ne s'arrête pas là, il regorge de projets toujours et encore et on en parle pendant cet épisode. On a aussi parlé de l'empathie qui est au cœur de son action, des couples en difficulté, des enjeux du commerce actuellement, d'écologie et des effets pervers de l'éco-anxiété, du low-cost, de l'importance de sortir de la quête du méchant et de la vindicte populaire, mais également de la moraline, du temps passé sur Netflix et nos consoles de jeux, de l'importance de cultiver la sensibilité, de l'isolement, de la solitude, de la transformation des consciences, de notre cher pays la France et des travers de cette sacrée bonne conscience. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à mon invité, Nathan Stern. Nathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Tu es déjà venu il y a... un peu plus d'un an, je crois. Donc je te remercie deux fois, vraiment. J'ai eu l'idée, effectivement, il n'y a pas longtemps, de faire revenir des invités dans mon podcast parce que je trouve que c'est intéressant de faire une sorte d'update avec des personnes que j'admire et qui peuvent donner matière à réflexion sur tout un tas de thématiques. Je vais te demander, pour commencer, si ça ne te dérange pas, de te présenter, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore écouté le premier opus.
Bonsoir Estelle, moi ça me fait très plaisir d'être à nouveau accueilli. Et je vais me présenter une nouvelle fois. Peut-être je vais me présenter un peu différemment.
Ouais.
Pour que ceux qui auraient entendu le premier podcast ne s'ennuient pas. Mm-hmm. Je me définirais comme quelqu'un d'un peu naïf qui a cherché à faire de l'empathie un métier. Mm-hmm. Et qui s'est dit pourquoi il faudrait que je vende des boîtes de petits pois. Pourquoi il faudrait que je fasse des choses dénuées de sens alors que c'est ce que je vais faire du lundi au vendredi, de 9h à 18h sans doute. Donc c'est l'essentiel de ma journée, c'est les plus belles années de ma vie, et il faudrait que je les dédie à quelque chose à quoi je ne trouve pas vraiment de sens et que je ne ferais pas bénévolement si j'étais pas... Voilà, donc je pense que j'ai eu très tôt à cœur de faire un métier dont je me dise je le fais parce que il a un sens intrinsèque, et pas seulement parce qu'il me procure un revenu. Donc l'empathie m'a assez vite... j'ai assez vite appréhendé l'empathie comme la définition du bien qui me convenait le mieux. Je crois que je suis quelqu'un d'assez dogmatique, d'assez guerrier sur le plan de mon attitude de base. Et cette idée de faire de l'empathie un métier, elle disait un petit peu « je vais travailler sur la définition du bien ». Et moi, j'ai pas mal souffert des définitions du bien et basées du sur... pardon ?
Du bien et du mal, du coup, non ?
Exactement. Ouais. Basées sur des définitions a priori. Donc, le bien, c'est ne pas mentir. Le bien, c'est la fidélité. Le bien, c'est le respect de l'ordre. Le bien, c'est le respect des ancêtres. Le bien, c'est le respect de la tradition. Le bien, c'est la psychanalyse. Le bien, c'est... la mise à distance des déterminismes sociaux. Donc à chaque fois des définitions qui finalement s'ajustent pas aux besoins des sujets, à mes besoins propres, qui ne s'ajustent pas. Voilà. Donc pour moi, empathie, ajustement, c'est vraiment le cœur de mon activité professionnelle. Et alors de manière plus concrète, parce que là j'étais un peu dans les tours, j'interviens dans des communautés, des écoles, des foyers pour handicapés mentaux, des mairies, des associations, des entreprises, et puis je m'efforce d'y élever le niveau d'empathie en améliorant la capacité des individus à se comprendre, à s'écouter, à coopérer. Et pour ce faire, j'utilise des nouvelles technologies en général. En ce moment, par exemple, je développe une application qui permet à des couples en difficulté de mobiliser un pool de médiateurs, bénévoles, amateurs, qui vont pouvoir venir... nourrir, conseiller, accompagner une personne qui a une difficulté dans son couple.
Ah d'accord, donc c'est des difficultés dans le couple. C'est hyper intéressant ça.
J'espère que ça...
Plutôt que d'aller chez le psy ou de faire une consultation à deux, etc., c'est des gens de l'environnement qui viennent apporter des conseils, c'est ça ?
Ce sera en ligne, ça pourra être anonyme ou pas, on pourra solliciter ses copines et ses copains, et chaque protagoniste au sein du couple pourra avoir son pool de médiateurs à ses côtés, qui ne seront pas là partisans pour prendre sa défense, mais qui seront là pour accompagner une réconciliation.
Mais tu crois que ça se passe plus, hein ? Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a, quand on a un problème dans notre couple, c'est le premier truc qu'on fait, c'est en parler un peu assez. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ça beaucoup. C'était peut-être pas forcément une bonne chose, mais ça existe plus, ça, aujourd'hui ? Il y a besoin d'avoir un outil pour ça ? Tu penses ?
C'est toujours intéressant de donner à un groupe de pairs les moyens de faire ce qu'on fait déjà. Et Internet n'est jamais plus fort que quand il réplique des usages qui ont déjà lieu dans le monde physique, dans le réel. Et Facebook, LinkedIn, ces réseaux-là ont du sens parce qu'ils se superposent avec des réseaux existants et c'est vraiment eux qui leur donnent le plus de pertinence. Donc je dirais que il y a une extraordinaire énergie dans le groupe de pairs et une extraordinaire énergie dans les nouveaux usages que permet Internet, notamment en matière d'immédiateté, de simplicité, de fluidification des échanges, etc.
On s'est rencontrés à l'époque où on travaillait dans le même environnement. Tu m'avais épaté sur un sujet qui était l'avenir du commerce. Je t'avais posé une question comme ça entre... entre deux réunions et j'étais bon voilà, on peut le dire, c'était un environnement lié à ça. Et tu m'avais beaucoup épaté sur ta réponse parce que tu avais distingué trois grandes tendances qui allaient concerner le commerce au sens large, ou en tout cas commerce au sens large mais retail plus spécifiquement. Et ta réponse m'avait marqué, et je le garde encore en tête parce que je me dis mais c'est fou parce que c'est toujours d'actualité. De mémoire, j'espère ne pas révéler un secret de guerre si tu me dis si on peut pas en parler. Mais il y avait effectivement la proximité, je crois, la personnalisation et l'expérience. Mmh. Et est-ce que tu penses que ces trois notions aujourd'hui, elles sont toujours valables pour le commerce au sens large? Et je parle pas uniquement de commerce, de e-commerce ou de... Puisque maintenant on parle d'omnicanal, mais est-ce que tu as toujours le même rapport à cette notion, à ces trois notions ou pas ?
Oui, je pense que en fait, les aspirations des citoyens, des consommateurs, aujourd'hui, elles sont de plus en plus focalisées sur la qualité de l'expérience qu'ils vont vivre. Les gens mesurent chaque jour davantage que la ressource la plus rare, c'est vraiment le temps dont on dispose, et l'usage qu'on fait de son temps devient critique, devient l'objet d'un vrai investissement. Je pense aussi que cette personnalisation, on s'y habitue de plus en plus. Ceux des interlocuteurs, des commerçants, ceux avec qui on interagit, qui ne connaissent pas notre historique d'interaction avec eux et qui nous traitent à chaque fois dans une forme d'amnésie, comme si c'était la première fois qu'on interagissait avec eux, ben, en fait, à un moment donné, on n'est pas très à l'aise, ça ne peut plus trop marcher. Mmh. Et puis la proximité, c'est vrai que c'est une notion aujourd'hui très importante. On est dans un moment un peu de défiance, et donc quand c'est proche, ben, c'est inclusif, c'est de confiance, c'est frais. Il y a tout un tas de vertus attachées à la proximité qui font que cette notion-là, elle a un tel éclat que elle est quasiment, je dirais, aussi forte que bio, par exemple, sur l'alimentation. Si c'est cueilli à proximité, ça a presque plus besoin d'être bio. C'est presque mieux que bio dans la fraîcheur et la proximité acquis de prix en quelques années.
J'ai envie de te parler d'un sujet qui est, à mon avis, très important pour toi comme pour moi et comme pour beaucoup de personnes, c'est l'environnement. Et là, on a eu une accélération en fait d'événements à l'échelle mondiale qui se sont produits dans les 6 derniers mois, enfin à peu près. Mmh. Enfin, je ne vais pas remonter à toute l'histoire, mais voilà, question hyper vaste. Si je te dis environnement, climat, tu me réponds quoi ?
Alors, je réponds que en 2020, la question de l'environnement a pris une tournure beaucoup plus émotionnelle. Mmh. On a presque tous eu des émotions. Pour certains d'entre nous, c'était la première fois que vraiment l'enjeu environnemental devenait quelque chose qui nous touchait, qui nous angoissait, qui nous affectait durablement, avec parfois de l'intensité. On a des gens qui vraiment vivent une éco-anxiété, on a des gens qui ont fait des genres de dépression. C'est presque devenu une sensation. Et les incendies en Amazonie, en Sibérie ou en Australie, on en sentait presque le fumet. Et ça, c'est assez inédit. Après, ce qu'il y a de fascinant, c'est notre extraordinaire inertie. Je pense que rien n'a changé. Il ne s'est jamais autant vendu de SUV, qui sont des véhicules significativement plus polluants que les alternatives. Et peut-être même que cette perception comme ça de notre précarité, peut-être que l'hypothèse collapsologique, la sensation d'un effondrement imminent, précipite des comportements de surconsommation, parce qu'on se dit « bientôt c'est fini, alors autant en profiter tant qu'il y en a encore, après moi le déluge ». Donc il n'est même pas évident qu'il y ait un impact positif à cette sensibilisation qui est indéniable, puisque toutes les études en témoignent. L'environnement est devenu une vraie préoccupation.
Je n'avais pas pensé à ça.
Moi, j'ai été un peu terrassé par un certain nombre de crises climatiques, de mois de juillet le plus chaud de l'année, depuis l'existence de mesures de la température et puis les chiffres sur la réduction de la biodiversité. Et j'ai mis un certain temps à relever la tête. Et je peux peut-être partager...
Avec grand plaisir.
Ce qui m'a aidé à retrouver l'espoir. Ce qui m'a aidé à retrouver l'espoir, c'est pas du tout le déni ou le fait de focaliser sur d'autres sujets ou sur les solutions ou sur les éco-gestes, parce que je vois bien que ça reste vraiment dérisoire. Voilà, epsilonesque, comme tu dis. Je crois que ce qui m'a fait du bien, c'est de me dire, ok, nous sommes une espèce soumise à un déterminisme très fort, qui est le déterminisme biologique, psychologique, culturel. Et en tant qu'individu, on ne réussira pas, malgré toutes les émotions, les peurs, les colères, les angoisses, les rages, les lassitudes, on ne réussira pas à changer suffisamment d'attitude à l'égard de notre propre prospérité, par Bien exemple, sûr. Pour qu'il y ait un changement significatif. Mmh. Et la pensée que nous sommes câblés, nous sommes formatés pour penser à ce que nous allons manger, pour penser à accroître notre revenu ou notre qualité de vie, ou notre nombre de likes, ou notre nombre de partages, ce formatage, on n'en viendra pas à bout. Et aujourd'hui, on est dans un moment de l'histoire où on croit que la sensibilisation va petit à petit nous transformer. Alors, on nous fait trier, on nous fait prendre le train plutôt que l'avion, on nous fait recycler nos papiers ou nos bouteilles de verre. Et je crois profondément que ce chemin-là, c'est pas gênant qu'on l'emprunte, mais c'est pas du tout lui qui permettra qu'on s'en tire, parce que si on regarde les chiffres, on voit que il ne se passe quasiment rien sur le plan de notre disposition à préserver l'environnement, et que la vie reste ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle sera sans doute toujours, une expérience très individuelle, où notre sujet va être notre bien-être corporel, physique, et notre confort, 2, 3, 4, 5 personnes autour de nous, et puis maximum. Le reste maximum, et le reste sera vraiment toujours très abstrait. Et au fond, l'environnement, d'un point de vue un peu psychologie profonde, c'est le dehors. Et le dehors, il est un peu hostile. Et je peux même pas exclure que les incendies soient pas quelque chose qui procure une forme d'exaltation.
C'est-à-dire ?
Eh bien, bien sûr, on est tous affectés par la disparition de la faune sauvage en Australie et en Amazonie et la déforestation. Mmh. Mais les émotions que nous inspire la remise des Césars, la mise en cause de telle ou telle célébrité sont infiniment plus profondes, intimes, directes. Mmh. Donc on est formaté pour que les personnages clés de notre clan, les chefs, les dirigeants, soient beaucoup plus concernants pour nous que ne le sont les éléments extérieurs qui ne sont pas sous nos yeux, qui sont sur d'autres pays, enfin dans d'autres pays ou dans d'autres continents. Et donc ce qui se passe en ce moment, c'est que le budget accordé aux Kleenex ou aux lotions hydroalcooliques est bien plus important que le budget accordé par chacun de nous à l'environnement. Ça, c'est les faits. Les faits, c'est qu'on a en moyenne dépensé 0 euro pour protéger l'environnement. On n'a pas fait de dons à des associations, on n'a pas... Il y a quelque chose comme ça qui est complètement inhibé dans notre comportement. Alors on pourrait se dire, mais c'est très déprimant tout ça, c'est désespérant. Pas du tout. Parce qu'en fait, dès lors qu'on comprend qu'on est formaté pour agir comme on agit, on va pouvoir à un moment donné arrêter de croire que nos désirs ou nos motivations vont évoluer. On va pouvoir faire ce qu'on sait faire. Et qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait créer des institutions, définir des règles du jeu, et définir un état de droit, renforcer l'état de droit, et petit à petit se dire, bon ben finalement, puisqu'on n'est pas capable individuellement de ne pas avoir envie d'aller à New York pour revoir cette ville merveilleuse, alors même qu'y passer 5 jours, c'est peut-être pas très sérieux, ou qu'on n'a jamais été voir les gorges du Verdon, et que finalement, est-ce que ça a tant de sens que ça de découvrir la Thaïlande alors qu'on n'a pas profité de l'Ardèche, eh bien, on va pouvoir poser ensemble un cadre réglementaire, parce que ce sera toujours quasi impossible de ne pas profiter si le voisin profite. Ce sera toujours impossible de ne pas se dire j'ai le droit à ma voiture si autour de nous les gens se donnent le droit à une voiture. Et cette inertie comme ça psychologique, clanique, tribale, elle est un état de fait, et si on l'accepte, en fait on se sent très vite beaucoup plus à l'aise avec les solutions à imaginer, qui sont des solutions
réalistes,
collectives et coercitive. On n'a pas le droit, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'il y a un cadre réglementaire. Aujourd'hui, il y a une forme de tabou sur la liberté individuelle. On se dit, on peut pas empêcher quelqu'un qui veut faire 600 000 km de rouler 600 000 km avec son vieux véhicule. Eh bien, demain, on se dira, en fait, toutes les interventions qui affectent le bien-être des générations futures ou des voisins peuvent faire l'objet d'une réglementation. Et la bonne nouvelle, c'est que l'essentiel des dégâts qu'on cause à l'environnement sont imputables non pas à des choses dont on a vraiment besoin, mais à des choses dont on n'a pas du tout besoin.
Ce que tu es en train de... Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais c'est-à-dire que les grands groupes, les grandes industries, on a entendu parler des taxes sur l'environnement, etc. Mais tu veux dire qu'on peut répliquer ce modèle-là de coercition qu'on applique aux grands groupes ou à des pans entiers de l'industrie ou de l'économie à notre niveau ?
Ah oui, je pense qu'on n'est vraiment pas loin du moment où les citoyens vont dire on a envie que collectivement soient mis en place des cadres qui nous permettent de ne pas nous sentir les dindons de la farce, les seuls à nous sacrifier, les seuls à faire preuve d'abnégation quand d'autres continuent de profiter. Mmh. Et on est tellement une espèce comme ça assujettie à la comparaison, à la rivalité, à l'envie de ne pas faire partie des moins bien lotis, que ben, c'est que dans le cadre d'un effort collectif et contraignant auquel personne ne pourrait échapper que les choses peuvent s'apaiser. Et ça commence déjà avec un certain nombre de phénomènes comme en Suède la honte de voler et c'est des signes avant-coureurs que la tolérance sociale aux manifestations les plus carbonées de notre liberté vont petit à petit être d'abord jugées, puis fiscalisées et peut-être un jour pénalisées. Et je pense que dans la mesure où c'est un suicide collectif qu'il s'agit de prévenir, parce que ce dérèglement climatique est vraiment de l'ordre du suicide collectif, on va à un moment donné ouvrir les yeux sur le fait que c'est une solution indolore. C'est comme les punitions collectives dans les classes, vous savez,
Non, mais c'est des règles de bonne conduite, en fait, presque.
Exactement.
C'est
vraiment un état de droit. C'est des règles de bonne conduite et ce sera consenti. Je ne pense pas du tout qu'il faudra exercer une forte contrainte parce qu'on aura tous individuellement envie que collectivement soit mis en place un cadre qui nous protège, nous, nos enfants et nos proches.
Bien sûr.
Voilà. Mais ça suppose de sortir du mythe de le désir des citoyens va changer, l'éco-consommateur va émerger. Tout ça, je crois que c'est une perte un peu de temps que d'y croire. Le combat à mener, c'est un combat pour une réglementation qui fiscalise, pénalise ou interdit un certain nombre de comportements qui ont des impacts carbone trop lourds. Et ce sera extrêmement peu frustrant de vivre dans un monde beaucoup moins carboné. De la même manière que la réforme des lois sur le tabac dans les cafés, au bout de 2 semaines, on se disait, mais quel bienfait extraordinaire de pouvoir manger tranquillement.
C'est un très bon exemple.
Et ben, on va adorer.
Les fumeurs, finalement, ont plaisir à manger dans un restaurant.
Et ça se fait en 2 semaines. Et je pense qu'il ne faudra pas beaucoup plus de temps pour découvrir qu'une ville décarbonée, c'est fabuleux. Qu'un séjour, que les loisirs décarbonés, que les relations décarbonées sont des relations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus enrichissantes. Donc un monde émancipé de la souffrance animale, puisque l'élevage évidemment est un gros contributeur à cette dévastation que nous vivons. Un monde, voilà. Alors on va devoir apprendre à se passer de viande, mais ça se fera avec plaisir parce que on sera content de le faire tous ensemble.
Alors, je vais peut-être un peu loin, mais du coup, ça me fait penser à recréer une sorte de lien communautaire, enfin pas communautaire, mais oui, c'est ça, c'est de recréer du lien social ou appelons-le comme on veut. Et est-ce que pour toi, ça va, idéalement, allons-y, est-ce que ça peut du coup permettre aux humains d'être un peu plus humains, c'est-à-dire dans leur attitude à l'autre, dans leur rapport amoureux, dans leur rapport sentimentaux, dans leur rapport à leur... Enfin, est-ce que ce genre de prise de conscience, de... Si on passe par la coercition, hein, j'entends. Est-ce que tu crois que du coup, ça peut avoir un impact positif ou négatif ? Je ne sais pas. Hein, mais je suis en train de me demander si ça ne va pas changer notre état d'esprit par rapport à l'autre.
Bien sûr. Je pense que donc cette coercition, il faut bien se comprendre, elle est vraiment désirée par les individus. Elle le sera, à mon sens. Les individus ne veulent pas individuellement se restreindre, se priver, se frustrer, mais ils veulent survivre. Et du coup, ils peuvent avoir envie que collectivement cet effort soit consenti. Et oui, je n'ai aucun doute que le fait d'abandonner des pratiques très énergivores va permettre de sortir de tout un tas de déni. Je vais prendre l'exemple du bien-être animal. Il n'y a quasiment pas un seul Français qui soit favorable à l'élevage industriel. Tout le monde est heurté dans sa sensibilité par ces entrepôts dans lesquels 40 000 poulets vivent entassés les uns sur les autres. Personne n'a voulu ça. Après, au moment de passer à la caisse ou de choisir son blanc de poulet, on va évidemment donner la priorité au prix. Mais en fait, le comportement et les habitudes qu'on a, qui sont très ancrées, nous font en permanence nous asseoir sur notre sensibilité. Et le fait de pouvoir devenir végane parce qu'il n'y a plus trop d'autres choix permet à tout un tas de gens de découvrir leur amour des animaux. Et on voit bien chez les enfants l'amour des animaux, mais il est aussi intense chez les adultes. Et il suffit de compter le nombre de vidéos qu'on voit sur Facebook ou sur YouTube qui documentent combien les animaux sont des créatures fabuleusement délicieuse et
inspirante. Mais moi, je suis en extase parfois de voir un oiseau, hein, donc je vois tout à fait de quoi tu parles.
Donc, il y a un amour pour les animaux qui est complètement inhibé par la consommation de viande et la complicité d'une pratique qui, en fait, va être compliquée à maintenir. Et on va tous, petit à petit, avoir conscience, et merci Greta Thunberg et ses homologues, on va tous avoir conscience qu'on est en train de se suicider collectivement parce qu'on ne veut pas se priver d'un steak ou parce qu'on ne veut pas se priver d'un séjour d'une semaine à Zagreb. C'est compliqué de justifier un suicide collectif parce qu'on ne veut pas se frustrer individuellement de ceci ou de cela. Une fois que cette compréhension sera partagée, je pense qu'il ne faudra pas longtemps pour qu'on se dise « Ok, allez, on se prend en main, on est une espèce adaptable, on va reprendre le dessus et on va arrêter cette passivité, cette impuissance dans laquelle on est tous ».
On va se responsabiliser, en fait.
On va se responsabiliser en comprenant qu'à l'échelle individuelle, on n'y arrivera pas. Et que c'est qu'à l'échelle collective qu'on aura ce succès. Et vraiment, effectivement, la comparaison avec les cafés me paraît intéressante. Au bout de 2 semaines, on était très heureux. Et c'est irréversible. On ne veut plus jamais entendre parler d'un fumeur de cigares à côté de nous pendant qu'on déguste sa salade. De la même manière, on sera tellement heureux de vivre dans des villes décarbonées. C'est des petits paradis. Copenhague, tous ceux qui ont séjourné savent que on rêve que Paris ressemble à Copenhague.
J'adore cette ville.
C'est une ville qui s'est auto-administrée un très très sévère cure de décarbonation.
Non, mais je vois tout à fait de quoi tu parles. Mais en plus, il y a un bien-être. Enfin, je sais pas. Il y a des énergies très positives dans cette ville. Est-ce que tu peux, je sais que tu es passionné de digital, de cet environnement que tu connais très très bien. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein d'initiatives actuellement sur l'environnement qui sont prises parce que, effectivement, faut tirer la sonnette d'alarme, effectivement, faut dire ce qui va pas, mais je crois, je suis certainement moins bien renseignée que toi. Mais je vois des jeunes qui s'emparent du sujet et qui essayent de trouver des solutions. Je pense au gaspillage, je pense au, que ce soit l'alimentaire, la voiture, enfin, tu vois, dans toutes les industries, on voit quand même que c'est en train de, tech for good, enfin, slash for good, truc for good. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'impact du digital dans tout ce qu'on est en train de vivre économiquement, socialement, etc. Enfin...
C'est vraiment neutre, l'impact du digital. Il y a le pire et le meilleur. Je dirais d'abord que le digital a fait régresser l'état de droit sur le plan de l'expression publique. Aujourd'hui, presque tout le monde s'est fait agresser en ligne, harcelé. La quantité de femmes qui subissent des harcèlements sexistes en ligne est vertigineuse. Donc, c'est un territoire, le monde des réseaux sociaux, Twitter en particulier,
de non-droit.
Est un territoire de non-droit où l'État est impuissant d'ailleurs à faire régner le droit. Et donc, n'importe qui peut propager une rumeur comme jamais ça a pu se faire dans l'histoire. Donc aujourd'hui, la capacité de chacun de nous à propager des rumeurs est vraiment inédite. Et ça a un coût social, ça a un coût humain. Et le niveau d'agressivité, d'hostilité, de vindicte est extrêmement élevé. C'est une chose qui est vraiment déplorée. On peut se représenter que les gens sont tous en colère, mais en fait, j'ai ce chiffre dans la tête, une étude Kantar qui dit que 87% des Français trouvent que la vie politique est beaucoup trop agressive aujourd'hui. Donc les Français qu'on n'entend pas, la majorité silencieuse, les gens discrets, les gens qui ne la ramènent pas, ils sont très fâchés avec le spectacle qu'ils trouvent obscène, indécent, de ces foires d'empoigne, de ces chroniques assassines, de ces mises en cause, de ces attaques sur le physique. Tout le monde est ulcéré par ces la pratiques, violence. Cette violence. Et la majorité silencieuse, celle qui ne fait pas parler d'elle, elle veut vraiment autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a le pouvoir, en fait. Elle va pouvoir assez tôt obtenir qu'un monde plus conforme à ses aspirations prenne pied. Et puis, il y a bien sûr des tas d'initiatives formidables en ligne. Pour ce qui concerne l'environnement, la plupart des plateformes que je suis contribuent à développer la sensibilité. Personnellement, je pense que la sensibilisation est nécessaire pour que les gens se disent il faut que collectivement on change. Il faudrait vraiment compléter cette sensibilisation avec la profonde conviction que tant que ce sera possible, un soda bien frais sur une terrasse en été, ce sera à peu près irrésistible, surtout si nos collègues ou les voisins de table en font autant. Donc il faut connaître nos limites et dès lors que ces applications prendront acte que nous sommes incapables de résister aux tentations, à l'échelle individuelle, elles pourront, à mon avis, être très efficientes. Aujourd'hui, elles contribuent à une sensibilisation individuelle et il n'est pas démontré que cette sensibilisation donne vraiment lieu à une transformation. Je prends l'exemple des millennials. C'est la génération la plus sensible de l'histoire de l'humanité à l'environnement. Et ils feraient mieux d'être comme leurs grands-parents. Parce qu'en fait, cette génération a aussi une passion des voyages de longue distance.
Et donc c'est devenu un produit de consommation.
Exactement. Et donc, quand on regarde le goût des voyages à l'étranger chez cette génération qui veut manger plus local, qui se soucie du tri sélectif, etc., il y a une énorme...
Je suis bien d'accord.
Hiatus et une énorme contradiction. Et moi, je ne leur jette pas la
pierre. Parce que c'est instagrammable. Non, mais il y a ça aussi.
Il y a ça, il y a une définition de soi.
Il y a besoin d'instagrammabilité de leur vie, quoi.
Voilà, donc on va documenter sa politique zéro déchet pendant l'année et on sera très heureux de se retrouver à Kuala Lumpur avec quelques amis pour quelques semaines. Il y a vraiment une profonde schizophrénie qui, en fait, n'est pas schizophrénique, qui est simplement l'effet de notre nature qui est immuable, qui ne changera pas tant que pour 500 euros on pourra aller au bout du monde. On ira au bout du monde et puis un jour on inclura dans le prix du billet les impacts sur les générations futures, et futures c'est demain matin,
mais ça serait pas une mauvaise idée
et là tout d'un coup ça deviendra beaucoup plus compliqué de partir pour deux semaines très loin. Et on sera très content que ce soit comme ça.
Parce que le low cost a fait quand même beaucoup de... Même si c'est à la fois fabuleux et parce que ça a permis à des gens qui n'avaient pas l'accès à ça, enfin au voyage, etc., d'y accéder. Mais pour moi, je peux pas m'empêcher que le low cost, c'est comme la fast fashion, tu vois. C'est un truc... on te donne une sorte de part de rêve qui finalement est low cost. Mais ça me fait penser à un podcast que j'ai fait avec une jeune femme qui s'appelle Julia Faure et qui parlait de la fast fashion avec un regard d'ingénieur sur le sujet. Et c'est vrai que ça me fait toujours un peu peur, si tu veux, quand on donne accès à quelque chose qui, à la base, n'est pas accessible, c'est que forcément, il y a des gens qui payent derrière, quoi.
Ou qu'il y a des coûts qui ne sont pas pris en charge. Et effectivement, mais moi, je pense que c'est très important de sortir du jugement. Et je jetterai la pierre à personne, ni aux millennials, ni aux compagnies low cost. Ce qui est vraiment important, c'est de sortir de ce psychologisme dans lequel on est, où on cherche des méchants. Alors, des fois, c'est des méchants de l'environnement, donc on va...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jeter la pierre à Total, sans remettre en question qu'on fait le plein trois fois par semaine parce qu'on préfère rouler en voiture. Et je ne suis pas non plus favorable à ce qu'on se jette à soi-même la pierre.
Bien sûr.
Je trouve ce qui est intéressant, c'est vraiment de sortir de notre psychologie de notre moraline et de se dire, ok, moraline, soyons un petit peu adultes, prenons acte que les solutions qui susciteront l'adhésion sont des solutions qui nous permettront de nous sauver. Et ça, je pense qu'on en est, on est tous désireux que ça ait lieu. Et qui ont un coût psychologique modeste ou même négatif, qui vont être peu gratifiantes une fois qu'on les aura mises en œuvre. Je vais peut-être compléter ma réponse sur le digital. Je pense qu'on est dans un moment un petit peu délicat où notre déterminisme biologique, cognitif, psychologique est tellement sévère qu'on se retrouve piraté par tout un tas de contenus, d'éditeurs, de plateformes qui savent nous rendre vraiment captifs.
Et demandeurs.
Et si on prend les chiffres, c'est les chiffres de 2018, mais on voit par exemple que les propriétaires d'une Wii passent en moyenne 2h26 par jour devant leur console. On voit que les Français passent collectivement en moyenne 35 minutes par jour sur Facebook. On voit que le temps passé devant la télé n'a pas tellement décru. On est toujours autour de 3h, 3h20. On voit aussi qu'on passe près de 3h46 par jour à interagir sur son ordinateur, son smartphone ou sa tablette avec l'écran. Donc il y a un effet de cumul comme ça. Donc en gros, dès qu'on a un peu de temps libre, on va interagir avec son écran. Et c'est irrésistible. Il faut en prendre acte. On est ainsi fait.
Tout est pensé pour ça.
Voilà. Et donc, on ne fait pas le poids. Et du coup, finalement, notre vie, c'est aller travailler le matin, quand on est salarié, et puis
être
le soir.
Être sur Instagram 2 heures.
Voilà. Et les Français, je crois, en moyenne, passent 4 soirs par semaine devant la télé. Donc, Mon Dieu. Temps libre est un temps dédié à ce...
4 soirs par semaine devant la télé.
Voilà.
Merci pour ces chiffres très précieux. Parce que alors vraiment, tu vois, c'est effrayant.
Mais oui, c'est 60% de la population qui regarde la télévision au moins 4 soirs par semaine.
Ils prennent même pas de bouquins, c'est quand même fou ça. Non, mais faudrait comparer, c'est impressionnant. Impressionnant.
Et là, par exemple, Netflix est arrivé. Et ceux qui ont Netflix passent en moyenne 2 heures par jour sur Netflix. Donc notre vie est vraiment colonisée par tout un tas d'entités surdouées. Il y a des séries fabuleuses sur Netflix. Enfin, comment ne pas comprendre qu'on passe 2 heures sur Netflix? C'est même...
Ah, mais même moi, je me sens tellement à la ramasse, parce que le problème, c'est qu'il y a une densité de séries. Et même, je suis pas très fan, hein. Moi, j'avoue, je suis pas très Netflix. Tu as un dîner, et puis forcément, on va te dire, t'as vu la dernière série? Puis la semaine d'après, c'est, t'as vu ça? Ben non, en fait, c'est impossible de suivre le rythme. C'est presque une source de clivage, enfin pas de clivage, mais de bon bah si tu l'as pas vu, on se parle pas quoi.
Ouais, d'exclusion.
Ça, c'est terrible.
Absolument. On peut plus communier avec certains de ses amis qui
c'est
sont.
C'est incroyable. Vraiment, ils sont à fond sur ce truc-là, donc du coup tu peux pas les comprendre, genre. Tu vois, il y a un truc de. Tu peux pas me comprendre parce que t'as pas vu la dernière série de Netflix.
Absolument. Et la capacité de ces entités, de ces créatures à coloniser notre quotidien est incroyable. Donc à un moment donné, ben voilà, on parle de digital detox, on essaie de se sensibiliser là aussi à une échelle individuelle, mais en fait on fait pas le poids face à des équipes de scénaristes hyper talentueux, des budgets infinis, des comédiens qui ont un talent fou. Ben voilà, notre vie individuelle, on est de moins en moins engagé à la vivre parce que faire quelque chose d'aussi intéressant que la saison 3 de Atypical, faut se lever de bonne heure, quoi.
C'est hyper important ce que tu viens de dire, parce que j'ai ce sentiment. Alors, je peux peut-être me tromper, mais il y a ce côté d'hyperpuissance qui n'est pas palpable, et ce côté d'impuissance totale, tu vois, au quotidien. C'est-à-dire, je trouve qu'on est effectivement tellement sollicité sur du rêve, ou de la distraction, ou du loisir, ou que notre vie perd de sa saveur. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui croient que la vie perd de sa saveur. Je pense que c'est une lutte au quotidien pour chacun, parce qu'il faut effectivement... c'est un travail sur soi. Mais peut-être que tout le monde n'en est pas capable. Parce que comme tu dis, on fait pas le poids. Et que c'est pas évident de faire le poids. Et oui, effectivement, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que la fiction a pris le pas sur la réalité.
C'est pas irréversible, parce que...
J'espère pas.
Là encore, on a affaire à une espèce qui va pouvoir, à un moment donné, ouvrir les yeux sur le fait que... ce qui relève de notre propre liberté s'est réduit comme peau de chagrin, et que notre temps libre, on l'affecte à des pratiques dans lesquelles on est spectateur ou on est témoin, enfin en tout cas on n'est plus engagé dans notre vie. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir une vie suffisamment gratifiante pour qu'elle fasse le poids face à une série encore plus géniale que la précédente et encore plus addictive. Donc cette capacité de notre environnement à nous capter, elle va à un moment donné nous faire rencontrer cette vérité qui est que ben, on est là pour être vivant, on est là pour être libre, et le monde extérieur ben, n'est pas suffisamment fun, n'est pas suffisamment libre, n'est pas suffisamment vrai, et on trouve dans nos séries des choses qu'on a beaucoup de mal à trouver dans le monde du travail ou dans le monde même de nos amis. Et moi, je suis toujours... j'aime beaucoup les cafés, j'aime beaucoup écouter les conversations. Comme c'est stéréotypé, les conversations entre copines au café ou entre copains.
Quand elles ne sont pas sur leur écran.
Quand ils ne sont pas tous devant leur écran.
C'est vrai.
Absolument. Et donc, on sent qu'on est tous très, très à l'étroit dans un monde régi par des normes sociales implicites, incroyablement étriquées. Et un des grands enjeux, c'est de donner un grand coup de pied à toutes ces normes implicites qui nous ratatinent et font que c'est beaucoup plus intéressant de vivre une série que de vivre un dîner avec sa tante.
C'est ça. Et du coup, on avait beaucoup parlé la première fois que tu étais venue dans le podcast de la solitude. Mais c'est forcément tout ce que tu viens d'exposer est forcément vecteur de solitude. Parce que tu te suffis à toi-même, en fait. Enfin, il y a presque un truc de... Bon, bah, j'ai ma série, j'ai mon truc, j'ai mes petits chats de côté, j'ai mes Tinder, j'ai mes trucs. Finalement, je suis bien tout seul. Non ? Est-ce que c'est où je fais une déduction qui n'est pas bonne ?
Non, c'est indéniable. On est à 2,2 personnes par foyer en France en ce moment, et le chiffre continue de baisser. On a 16% des gens qui ne voient jamais leurs frères et sœurs, et 39% presque jamais. Donc même la famille, qui est vraiment la structure sociale la plus robuste, la plus résiliente, elle est un petit peu fragilisée. On a 27% des plus de 75 ans qui sont complètement isolés. On a 25% des petits-enfants qui ne voient jamais leurs grands-parents et 38% presque jamais. Donc, papy, mamie, c'est dans les...
C'est un imaginaire.
C'est à la télé, c'est dans les pubs. C'est un imaginaire pour de plus en plus de personnes. Donc, non, non, tu as bien raison. La solitude gagne encore du terrain et c'est irrésistible que ça continue d'être le cas tant que nous restons livrés à
ce qu'on nous donne, quoi.
Tous ces éditeurs de contenu qui sont plus forts que nos voisins, plus forts que nos amis, plus forts que nos amoureux ou amoureuses. Et c'est quelque part pas si grave que ça, parce que tout peut changer très rapidement. C'est vraiment très profondément une question de normes sociales. Là, on est encore dans ce moment un peu d'exaltation où on a découvert Netflix et on est tous en train de se prescrire mutuellement des séries géniales. Et on passe pas pour quelqu'un qui est un no-life quand on célèbre la nouvelle saison de sa série favorite. Comme on est très très sensible à la question du statut au sein du clan, si demain les gens qui passent plus d'une heure devant leur écran sont appréhendés comme des gens qui n'ont pas réussi à avoir une vie intéressante ou plus excitante que ce qu'ils vont trouver sur les séries, bon ben très rapidement ils vont se battre pour rendre intéressante leur relation avec la voisine, intéressante leur relation avec leur père ou leur mère. Et ça suppose de la liberté. Et la liberté, elle s'acquiert par le droit et par l'empathie. C'est pour ça, moi, que quand je parle d'empathie, je pense pas du tout à quelque chose de compassionnel, de détriqué. Je pense au contraire que si on savait s'ajuster, ce serait beaucoup plus fou, parce qu'en fait, on est tous aussi décalqués et plein d'imagination que ce qu'on aime regarder quand on est.
Je suis très marquée par cette phrase, elle est très belle. Le droit s'acquiert par le droit et l'empathie. Si les gens arrivaient à se dire ça régulièrement, peut-être en post-it dans la cuisine, ce serait bien. Excuse-moi, je t'ai peut-être arrêté.
Non, pas du tout. Mais je crois vraiment que si on regarde les meilleures audiences sur YouTube, ça nous fait un petit portrait robot.
Ça va me faire peur, ça, je le sens.
Pas tellement, en fait.
Ah bon ?
Les influenceurs les plus suivis, si on prend chez les femmes, c'est Léa et lui. Donc c'est une jeune fille de 19 ans qui a été harcelée et qui est dans la tendresse. la bienveillance, l'humilité qui la ramène pas, qu'on prenne Squeezie, Cyprien, Norman, tous les youtubeurs comme ça, ils sont dans l'autodérision, ils sont dans la bienveillance, même des gens comme Big Flo et Oli. Donc on a un énorme soutien populaire, un énorme intérêt pour ces gens qui disent voilà, faut pas se prendre au sérieux, faut être humble, faut être bienveillant, faut être tendre. Et c'est eux qui gagnent sur le long terme.
Bien sûr.
Alors, de temps en temps, il y a des clashs, il y a des Zemmour, qui font beaucoup parler d'eux, etc. Mais sur la durée, ceux qui gagnent, c'est vraiment ceux qui font le choix de
la bienveillance et de l'humanité, tout simplement.
Exactement. Et ces gens-là, qui font aussi le choix de l'authenticité, de montrer leurs petits travers, leurs petites hypocrisies, leurs petits mensonges. Ces gens-là,
leur fragilité aussi.
Exactement, leur fragilité. Ils montrent un autre chemin dans lequel il y a plus de liberté, plus d'authenticité.
Bien sûr.
Et finalement, il y a pas mal, si on apprend à y être attentif, il y a pas mal de signaux qui nous montrent qu'un autre monde, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus interactif, plus libre, est en train d'émerger. L'humour est une composante très importante, par exemple, de cette génération d'influenceurs qui ont les meilleurs nombres d'abonnés.
Mais comme si c'était presque un élan de survie par rapport à la robotisation de certains comportements. Tu vois, c'est si nous, on a... Là, je le ressens beaucoup, moi, l'hypersensibilité, on en parle de plus en plus, l'empathie, la bienveillance, ça commence à émerger. Mais c'est vrai que j'ai un peu le sentiment qu'on a besoin de développer ces qualités-là pour nous distinguer des robots. Peut-être bête hein, ce que je dis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, plein de pans de l'économie entière qui vont être robotisés, voilà, mais ouais, bah écoute, c'est positif en tout cas, tu vois, je pensais pas qu'il y avait ce genre de chiffres sur YouTube, j'ai eu peur quand il m'a annoncé les préambules, mais tant mieux.
J'ai un autre chiffre que j'ai envie de partager, c'est toujours issu de cette étude Kantar pour Destin commun. 83% des Français sont convaincus qu'on doit se serrer les coudes et faire face aux problèmes ensemble. Et quand on,
c'est beau.
Quand on suit, c'est une majorité écrasante qui se dit voilà, la fraternité, on ne pourra pas s'en émanciper ou s'en passer. Et au fond, on a une communauté de destin qui peut d'autant mieux, que dire, se choisir que le chemin qui est présenté est efficient. Et aujourd'hui, on a des chemins qui sont en fait qui marchent pas très bien pour la plupart d'entre eux, notamment en matière d'environnement. Si demain une alternative pertinente se présente, je pense que elle aura les faveurs d'une majorité. J'ai un peu envie de dire que cette transformation de la conscience, elle a besoin d'être nourrie par des faits. Et on est dans un moment où les fictions, les histoires, nous ont vraiment, de manière impérialiste, complètement colonisés. Et c'est toujours intéressant, je pense, de se dire, ok, factuellement, si je tombe malade, sur qui je tombe ? Sur qui, pardon ? Si je tombe malade, sur qui je compte ? Je compte sur l'État.
On est en plein dedans.
Je compte sur l'État.
On est en plein dedans.
Je compte sur mes voisins. Je compte sur la communauté nationale qui a mis en place une institution qui s'appelle la Sécurité sociale. Et si je perds mon boulot, je compte sur l'État et sur donc la communauté nationale qui a mis en place l'assurance chômage si je suis salarié. Et si j'ai suffisamment travaillé et que je vieillis, c'est ma retraite, je compte à nouveau sur l'État. Et au fond, sur les choses les plus importantes, notre dette, elle est envers le collectif, envers la communauté nationale. Et aujourd'hui, c'est pas du tout perçu. C'est essentiellement des expressions d'ingratitude, d'amertume, des sentiments d'injustice qu'on entend. Et les gens, je pense, peuvent imaginer que leur clan, leur famille, leur groupe de référence, leur communauté est une ressource très précieuse. Sauf qu'en fait, c'est les autres contribuables qui cotisent à assurer ma sécurité, qui sont en fait ceux dont j'ai vraiment besoin. Et ce sont des dispositifs, ces dispositifs de l'État-providence, qui ont, aux yeux de beaucoup de gens, un caractère un peu ringard, alors qu'ils ont une incroyable puissance. Et on a désappris à aimer ces institutions qui sont magiques. Et il y a peu de pays qui ont su mettre en place des régimes de couverture aussi universels et aussi efficients.
C'est évident.
Alors, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais S'il y a une chose à cultiver, à mes yeux, c'est la gratitude.
Mais d'autant que je pense qu'il y a très peu de gens qui se rendent compte, enfin, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a quand on est dedans, mais quand on voyage un peu ou quand on est obligé d'aller ailleurs, c'est bien d'en avoir conscience, ouais.
Ouais. Et cette gratitude, je pense qu'elle elle fait beaucoup de bien. Il n'y a rien de plus triste que d'être bénéficiaire de droits, juste parce qu'on est là, parce qu'on est un citoyen, alors tout d'un coup on a plein de droits. On n'a pas à contribuer, on n'a pas à cotiser, on n'a pas à se mobiliser. Et finalement, on est quasiment très près d'un statut de victime, puisque
complètement.
On n'a rien fait pour, on ne mérite
rien. Je suis d'accord, il n'y a plus de mérite.
Voilà. Et cette notion comme ça de gratitude, elle a aussi un
impact, effet vertueux
et un impact très fort sur les chances de succès, les chances d'avoir ce qu'on veut et les chances de se sentir bien entouré. Donc cultiver la gratitude dans un moment où tout le monde a un petit peu envie de partager son amertume,
sa colère,
sa rage, son sentiment d'injustice, c'est une chose à mon sens très, très intéressante aussi.
Je suis entièrement d'accord. Est-ce que tu as des référents, des maîtres, enfin j'aime pas du tout ce terme parce que je le trouve un peu vieux, un peu vieillot, mais maître à penser ou est-ce que tu as en tête trois ou quatre ou deux, peu importe, ou un d'ailleurs, personnage comme ça qui a influencé ou qui d'ailleurs continue de t'influencer peut-être?
Raymond Bouton.
Ouais.
Je crois que j'en ai peut-être parlé.
On en avait parlé.
Paix à son âme, c'est un sociologue qui m'a beaucoup inspiré. Il avait cette habitude, ce parti pris de toujours chercher les bonnes raisons, entre guillemets, que les acteurs se donnent de faire ce qu'ils font. Les bonnes raisons que les acteurs ont de faire ce qu'ils font. Et bonnes raisons, ça s'entend au sens... en fait, chacun de nous a son contexte avec une information qui est parfois biaisée ou partielle, avec une information qui est aussi, en quantité très très limitée. Et il va agir, il va développer des croyances en fonction de ce contexte. Et quand on reconstitue ce contexte, c'est très facile en général de comprendre le sens que revêt un comportement ou une croyance chez un individu. Et cette passion de la recherche des bonnes raisons, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement précieux. C'est vraiment une pratique non jugementale, où quand on est témoin d'un comportement qui nous scandalise ou qui nous paraît irrationnel ou stupide, tout de suite, on s'empêche de s'aveugler dans une forme d'abêtissement par le jugement. Et on se dit, ok, je suis heurté dans ma sensibilité par ce comportement, mais de quoi témoigne-t-il et quelles sont les bonnes raisons que l'acteur qui a ce comportement a voilà. Donc ça, pour moi, c'est...
Ça recoupe ce que tu disais précédemment. C'est une sorte de gratitude. Enfin, pas de gratitude, mais en tout cas de... Non, c'est pas ce que tu disais, mais c'est... C'est plus proche, de la bienveillance. Enfin, on en a parlé un peu avant, mais c'est se tempérer.
Oui, je pense qu'on peut tout à fait rapprocher ce parti pris de se focaliser sur les bonnes raisons que les acteurs ont de faire ce qu'ils font, même quand c'est irrationnel ou que ça paraît méchant. C'est intéressant, effectivement, de rapprocher ça de ce parti pris d'empathie, je pense, puisque souvent, c'est le jugement qui nous rembête. C'est le jugement qui nous aveugle et
qui nous rend violent.
Qui fait qu'on n'est même pas pertinent. Donc, ce n'est pas parce que le jugement, ce serait mauvais sur le plan moral que c'est défectueux. C'est surtout parce que ça nous abêtit. Ça nous empêche d'accéder à une compréhension des moteurs, des leviers d'engagement des autres. Et du coup, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas s'ajuster, on ne peut pas travailler avec des gens dont le contexte nous échappe à ce degré-là. Donc ça, c'est une référence pour moi extrêmement marquante. Et je suis un peu embarrassé de répondre à cette question.
Parce que c'est forcément...
C'est surtout qu'il y a beaucoup de gens que j'ai portés au nu et puis désinvestis. Freud, d'accord, par exemple, a été un de mes grands maîtres. Et puis, je me suis intéressé à lui de manière un peu systématique. Et j'ai vu combien il était humain, combien... il avait à cœur de raconter de belles histoires, de traiter les cas qu'il documentait de telle manière que ça démontre un peu les thèses qu'il avait envie de démontrer. Et j'ai une immense admiration pour la contribution de cet homme à la compréhension que nous sommes pas toujours aussi libres ou aussi conscients de notre déterminisme que nous le voudrions. Et en même temps, je trouve ça tellement intéressant d'aller au-delà. Donc moi, mon geste, c'est vraiment pas tant un geste de révérence qu'un geste de toujours avoir envie d'aller plus loin et,
je comprends,
et
mais
compléter et puis chercher même, je dirais, les points, les limites, ce qui me donnera un petit peu aussi à moi une gratification narcissique, parce que je me dirais, tiens, ça, je l'ai compris, et lui, il l'a peut-être pas compris.
Bon, ceci dit, Freud est très, très remis en question. Hein. Enfin, là, je sens qu'il y a une espèce de cabale contre lui assez importante, mais qui s'explique enfin, en partie. Est-ce que tu as des projets actuels dont tu veux nous parler ou
Peut-être un projet pour le bien-être animal, qui est une cause qui me touche beaucoup.
Moi aussi, ça me touche.
Ça me touche d'autant plus que je pense vraiment que chaque pourcent de sensibilité accrue dans en faveur des animaux rejaillit sur la sensibilité aux autres humains.
Évident.
Et que ce sont vraiment deux causes jumelles. Et que plus on sera sensible aux animaux, plus on sera sensible à notre animalité. Mmh. Et plus on la légitimera, plus on l'accueillera avec bienveillance. Et moins on sera dans cette autofiction hyper violente, hyper maltraitante de nous-mêmes, où en permanence, on doit se faire passer pour autre chose que des animaux. Dès qu'on a des borborygmes, dès qu'on mange devant des gens qui ne mangent pas, on est embarrassé comme si on était bestial. Enfin, il y a un million de signes que notre animalité, elle est très profondément harcelée dès la naissance. Donc, je suis impatient que notre condition d'animal soit reconnue et qu'on perde nos bénéfices psychologiques super toxiques à se sentir supérieur aux autres animaux, à se sentir dominant ou avoir quelque chose de plus que les autres animaux, comme si chaque animal, les dauphins, les requins, les chimpanzés n'avaient pas quelque chose en plus, quelque chose d'unique, quelque chose de spécifique. Donc ce besoin de supériorité,
ils ont beaucoup de choses à nous apprendre.
Il est profondément terrible. Et donc je suis impliqué dans un projet qui consiste à enregistrer les vocalisations des cochons.
C'est-à-dire ?
Eh bien, les cochons sont des animaux très sociaux, qui en permanence partagent avec leur père des informations sur leur bien-être. Ils ont soif, ils ont faim, ils s'ennuient, ils sont jaloux, ils sont amers, ils sont en colère, et ils sont dans une conduite de séduction. Donc, ils ont beaucoup de vocalisations. Et ces vocalisations, c'est leur voix, c'est leur parole. Et en fait, elle est très signifiante. D'ailleurs, la contagion émotionnelle chez les cochons est très très forte. Dans les élevages, quand un cochon est pas bien, tous les cochons sont pas bien. Aucun des cochons n'est bien. Et je me suis dit que capturer ces vocalisations, c'était un levier intéressant pour donner aux consommateurs les moyens de sentir ce que ça veut dire le bien-être animal. Parce que le bien-être animal, aujourd'hui, ça relève un petit peu de l'éthique. C'est pas très palpable, alors que la voix est quelque chose de très palpable. Et du coup, on développe dans le cadre d'un travail de recherche, une intelligence artificielle capable d'interpréter les vocalisations. Donc, on a appelé ce dispositif le Smart Monitoring.
Okay.
L'idée, c'est que on mette au point, et les premiers résultats sont très, très encourageants, qu'on mette au point un dispositif qui écoute en permanence les vocalisations des cochons. Et lorsqu'il y a un état de stress aigu, eh bien, l'éleveur va pouvoir être averti qu'il y a un souci. Et on peut imaginer, évidemment, que les pratiques d'élevage soient améliorées de manière incrémentale, puisque le suivi, le monitoring du bien-être de ces animaux est suivi de manière rigoureuse.
Ça pourrait être duplicable sur d'autres animaux ?
Ah, bien sûr, mais pas tous, parce qu'il y a des animaux qui sont dans la nature des proies, alors que les cochons sont plutôt des sangliers d'un point de vue génétique, sont plutôt des prédateurs. Et les prédateurs, ils n'ont pas peur de parler parce qu'ils ont peu de prédateurs eux-mêmes. Un lapin, même terrorisé, il se contentera d'agiter ses oreilles à la recherche des origines, des bruits, de l'origine du bruit, parce qu'il a beaucoup de prédateurs dans la nature. Donc, il y a des espèces qui ne vocalisent pas, mais les mouvements du museau ou des oreilles ou des pattes permettent de détecter.
D'accord.
Et là aussi, l'IA, l'intelligence artificielle, permettra de faire des miracles. Et j'ai vraiment à cœur qu'on entende la parole des cochons. ils ont plein de trucs à dire. Et parfois, comme les chats ou les chiens, ils expriment du bien-être. Et j'ai aussi envie qu'on puisse
donner à
entendre.
Ça serait chouette de le faire avec les chiens et les chats.
Et je pense que c'est déjà en cours. Hein.
Ce serait top.
C'est déjà en cours aussi sur les bébés, dont les vocalisations sont parfois difficiles à interpréter. Une fois qu'on a validé que la couche était OK, qu'ils ont bien mangé, et qu'ils n'ont pas de problème d'aérophagie, on ne comprend pas pourquoi ils pleurent.
Ça serait révolutionnaire.
Donc c'est en cours de développement. Et à l'instar des bébés, ben, on a des tas de cochons, de truies qui rêvent d'avoir un meilleur suivi de leur bien-être. Et évidemment, ça a vocation à tirer vers le haut les pratiques d'élevage et à faire reconnaître le travail des éleveurs qui se battent pour que leurs animaux se sentent mieux. Et cet algorithme, s'il est suffisamment au point, il permettra vraiment d'aller très loin dans la valorisation de ces pratiques en faveur du bien-être animal.
Alors, je sais que la question va être un peu vaste pour la fin quand même, parce que on arrive à la fin de notre conversation, même si j'ai pas du tout envie d'arrêter. Qu'est-ce que tu penses, même si tu l'as bien expliqué sur des aspects, mais j'ai coutume de poser comme question la France. Voilà, un regard, on va dire, sur notre cher pays, sans pour autant partir dans des grands développements, mais voilà, si tu avais quelques ressentis, tout simplement ce que tu as envie de dire sur l'état de notre... de notre pays.
Alors, j'ai envie de répondre, mais un peu taquine, ça dépend de l'heure. Si on est entre 18h30 et 20h45, on va compter environ 30 millions de Français devant la télé.
Ouais, donc ça, ouais.
C'est pas la même chose si on est dimanche midi. Ça, c'était ma petite taquinerie. Je dirais que la France est un des pays, moi, qui me donne le plus d'espoir.
Ouais.
Parce que c'est un pays qui a su comprendre que la culture n'est pas un bien comme les autres, et qu'elle a su protéger, et que la culture n'est pas un bien. Et on a encore en France ce goût de la valeur intellectuelle, de la valeur de la connaissance. Et l'argent n'est pas roi en France, quoi qu'on dise. Le niveau de prélèvement est extrêmement élevé. Et en fait, quand on fait des enquêtes pour voir quelles prestations les Français seraient prêts à sacrifier, en gros, c'est aucune. Du coup, ils ont un attachement à la manière extrêmement solidaire, avec bien sûr des imperfections et des choses à améliorer. Mais les standards sont quand même très élevés. La dernière fois que j'ai été à Shanghai, j'ai rencontré des gens qui me parlaient de ce que leur belle-sœur était morte d'un cancer du sein parce qu'ils n'avaient pas trouvé les sous pour payer l'opération. Donc, on ne se souvient pas en France de ce que ça veut dire bénéficier d'une forme d'appui quasi illimité sur la plupart de nos soins médicaux critiques. Donc, il y a en fait un vrai attachement à ce que cette communauté nationale a mis en place, qui est d'une incroyable générosité. Et on entend beaucoup parler de casse sociale, de remise en cause du système, etc. Si on regarde les faits, ben en fait, le système, il est très résilient, il résiste bien, et il reste compétitif dans un environnement où, effectivement, d'autres acteurs ont des fiscalités beaucoup plus avantageuses, mais le dumping fiscal et social n'est pas si efficace que ça contre notre pays et ses institutions. Il faut juste que les CAF, les Sécu, les Pôle emploi se mettent un petit peu en mouvement, apprennent le design thinking, apprennent à travailler avec les usagers, avec les allocataires. Et on va avoir une vraie histoire d'amour entre nos institutions, qui sont notre plus beau fruit, notre plus belle œuvre, et nous. Et je pense vraiment que cette communauté nationale, qui aujourd'hui n'est pas assez reconnue, qui est perçue comme un petit peu frileuse, qui est souvent caricaturée, le jour où on saura à nouveau l'aimer, pas sur un mode nationaliste, bien entendu, mais par fierté pour ce que nous avons construit, est-ce que nous savons nous donner les uns aux autres, ben ce sera un grand moment. Et on saura être, j'espère, inclusif, ouvert, exigeant, et s'émanciper le plus vite possible de cette logique de droit au profit d'une logique de contribution et d'enthousiasme à participer collectivement à une aventure qui a du sens et qui a une beauté que je trouve intacte. Voilà.
Je suis totalement d'accord. Deux choses. Juste si tu as un coup de cœur récent et un coup de gueule.
Alors le coup de cœur, ce serait Big Flo et Oli. Je crois que c'est des rappeurs. J'ai entendu 2-3 chansons d'eux. Et je me suis dit, c'est vraiment une chance qu'on ait des gens comme ça, qui ont une immense popularité et qui ont un goût pour la tendresse, pour la justesse, qui est extraordinaire. Et je me suis dit, c'est formidable comme partout, dans tous les milieux, dans toutes les régions, il y a des gens comme ça qui savent reconnaître et partager ce qui a à leurs yeux de la valeur. Et là, on est dans quelque chose de profondément français.
Je connais
moi.
Pas.
Ouais.
Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein, mais je. Ils sont très connus.
C'est mon fils de 13 ans qui me l'a fait, a fait découvrir. Donc j'imagine que moi, je n'étais pas du tout dans la cible. Et quand j'ai vu leur tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, maintenant, je les adore.
Tu les adores. Ouais. Et si tu as un coup de gueule?
Peut-être un coup de gueule contre les gens qui ont bonne conscience et qui pensent que leurs valeurs sont les valeurs qui méritent d'être défendues. Et en ce moment, on a des gens très en colère contre les inégalités supposées ou réelles, les injustices, et qui s'aveuglent sur le fait que les valeurs, ce n'est pas que la solidarité. Et il y a d'autres valeurs qui méritent d'être reconnues comme étant légitimes. Par exemple, la loyauté. Par exemple, l'intégrité ou l'honnêteté. Par exemple, le fait de respecter le sacré, le fait d'être honnête. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, elles passent un peu quasiment pour des valeurs de droite ou des valeurs ringardes. Et je pense que c'est très important de ne pas être dans une forme d'aveuglement et de mépris pour les autres valeurs que sont la loyauté, l'honnêteté, et le respect du sacré, des choses comme ça. Et aujourd'hui, la solidarité a une forme de plébiscite et de monopole de la valeur. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée.
C'est très vrai. Je suis totalement d'accord.
De s'arrêter d'accord. à ça.
Ouais. Voilà. T'as raison.
Et donc la bonne conscience, c'est la mère de la plupart des vices, puisque l'intolérance est légitimée par la bonne conscience. Quand on se sent droit dans ses bottes, quand on a une fierté dans les principes qu'on défend, eh bien, tous les coups sont permis, les moyens justifient la fin, enfin, la fin justifie les moyens, pardon. Et cette bonne conscience, elle me paraît vraiment inappropriée.
Dangereuse.
Et surtout quand elle est portée par une idée comme ça, dans laquelle on s'auto-célèbre.
Bien sûr.
Où on se fait passer à ses yeux comme quelqu'un de courageux, de brave, qui mène à un combat louable.
Ça d'autant que les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses.
Absolument. Les réseaux sociaux donnent à chacun de nous le loisir
de briller,
de se la raconter et d'affirmer avec beaucoup d'autorité que son point de vue est celui qui doit prévaloir. L'humilité, la discrétion, je trouve ça beaucoup plus
puissant
et comme je ne veux pas finir par un coup de gueule, j'ai envie de dire merci aux gens qui en ce moment ne partagent pas leur opinion sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur Instagram.
Moi, j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur et je m'en suis pris plein la gueule. Donc, ça m'aura servi de leçon.
En tout cas, je pense que c'est une belle contribution à la paix dans le monde d'être
un peu d'accord avec toi.
Discret, détaché et de laisser s'éteindre ces incendies bidons pendant que d'autres vrais incendies continuent de nous ravager.
Tu as bien raison. Merci beaucoup, Nathan.
Merci
et très belle route à toi.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. acast.com.